NILF, Calculating Infinity, une exposition en duo, en binôme artistique, Fabien Giraud et Raphaël Siboni. Lorsqu'on découvre cette exposition, Fabien Giraud, vous nous l'avez dit, il y a un petit cartel avec une citation en prélude, je crois, des Maîtres fous de Jean Rouch, un film de 1954 qui a été tourné sur une secte au Niger, des rituels de possession et d'exorcisme, de la bave, des transes, un film d'une violence parfois insoutenable encore aujourd'hui. Vous dites souvent que vous organisez ces expositions comme une forme de rituel païen à traverser. Donc déjà, pourquoi cette référence peut-être au départ justement à Jean Rouch et aussi à un rituel, ces rituels de possession qui sont difficilement communicables d'ailleurs.
La référence à Jean Rouch, je crois que pour nous, c'est assez important depuis longtemps. En fait, même si les formes n'ont plus rien à voir avec l'ethnographie proprement dite ou les films que pouvait faire Rouch, mais je pense que moi, ce qui m'avait marqué étant étudiant, en étudiant le documentaire d'ailleurs, c'était que Rouch parlait à travers les Maîtres fous et puis dans les interviews qu'il a pu donner sur ce film, il parlait de ce que pouvait être en miroir de ce que faisaient ces Africains en pleine période coloniale, ce que pouvait être quels étaient les rituels que nous, nos sociétés inventées pour qui auraient la même fonction finalement que le rituel dans le film. Donc cette fonction-là, cette fonction d'exutoire qu'il décrit ou de retournement par rapport à des processus de pouvoir. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que ces rites-là, comment est-ce qu'ils émergent aujourd'hui, par d'autres biais, évidemment, dans nos sociétés même.
Alors justement sur ces rites, ces rituels, ces cérémoniels, Jean Rouch à l'époque, l'ethnographie, vous le disiez, était encore dans la période coloniale. On lui a beaucoup contesté, enfin certains lui ont contesté justement un regard anthropologique et ethnographique parce qu'il avait une telle inquiétante ou sidérante étrangeté. Vous, Raphaël Siboni, dans cette exposition aussi, il semble d'abord que d'une part vous faites un petit peu des références à l'histoire de la muséographie d'une certaine manière, ou peut-être une mise en crise, je ne sais pas, par rapport à la question justement de l'installation, ou comment présenter, puisque c'est une exposition composée de trois salles qui dialoguent beaucoup entre elles aussi, également sur ce rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Disons qu'on a pensé l'exposition. En fait, c'est la première fois qu'on fait une exposition où on présente plusieurs pièces ensemble. D'habitude, c'est souvent une installation ou un objet. Et on attendait vraiment ce moment avec impatience de pouvoir mettre plusieurs objets ensemble qui, au-delà de constituer une exposition, constituent un ensemble qui soit cohérent et qui, en fait, fonctionne, comme on en parle avec Fabien, par contamination. C'est-à-dire que les objets ne sont pas équivalents. Mais on va dire, certains aspects ou certaines parties de l'objet apportent du sens aux autres, en fait. Donc toute l'exposition a été pensée comme ça, chaque objet est en fait augmenté par l'objet suivant, presque.
Alors justement, c'est un jeu de strates, c'est évidemment un jeu palimpseste de ce niveau-là. J'insiste sur le côté jeu parce qu'il y a aussi un aspect ludique. Sur le titre même, NILF Calculating Infinity, ça fait un petit peu référence aux trois parties de cette exposition. Bon, il y a une quatrième qui est extramuros où des écrans sont à voir dans le cadre d'un sex shop dont on parlera brièvement, si vous le voulez bien. Mais d'une part, disons, par rapport à ce côté infini, cet écoulement héraclitéen de cette fontaine de soda, qu'est-ce qu'il en était déjà, justement, par rapport au rapport entre le côté générique et singulier
Vous pouvez juste
Oui, alors si on restitue la question, c'est-à-dire c'est sur la question de l'infini. Parce que quand on prend peut-être l'une des premières installations, si j'ose dire, dans ce bureau, donc avec ces deux motos dont vous parliez, il y avait une question, il y avait un côté infini, mais en même temps une image qui butait sur elle-même. Avec le liquide qui est ici, c'est pas que le liquide remonte, mais on a aussi l'impression que ça, quelque part, c'est en circuit fermé, mais qu'en même temps, ça continue à s'écouler. Donc sur cette question de l'infini, il y avait aussi l'infini par rapport au fractal et puis l'infini par rapport au rituel.
Disons que ce qui nous a intéressé avec l'idée d'infini, c'est à la fois en fait la grandeur à laquelle ça renvoie, c'est-à-dire une sorte d'élévation au final, ou une forme un peu de transcendance quasi, en fait, d'essayer d'atteindre quelque chose qui serait au-dessus de nous, et en même temps toujours, c'est toujours là dans le cadre de tentatives assez... déficiente, ou c'est-à-dire que c'est à la fois la recherche d'un absolu, mais en même temps avec des moyens qui sont très maladroits, très bon, la copie du tableau fractal, on va dire que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est au moment le tableau, enfin le pinceau bute en fait, et on peut plus descendre en résolution. Pour La Fontaine, c'est pareil, c'est une sorte d'imagerie de l'infini, mais appliquée au McDonald's en fait, à la fontaine à soda.
Oui, dans la lignée de ce que dit Raphaël, il y a cette idée que l'exposition fonctionne de manière assez dialectique, comme ça, entre un temps en suspens, c'est-à-dire avec que des phénomènes qui sont des phénomènes donc, de bouclage sur eux-mêmes, et donc la possibilité d'un temps infini, et d'une forme comme ça qui se reboucle, et en même temps de quelque chose d'extrêmement, quoi, ce que tu dis dans le maladroit, mais dans... de quelque chose d'extrêmement cru au final, c'est-à-dire que évidemment ce qu'on voit dans la vidéo, mais on va en parler, c'est un acte solitaire et très 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 hyper réel en fait, donc une espèce d'oscillation entre l'hyperréalisme et ce temps suspendu comme ça bouclé sur lui-même. Je pense que ça c'était vraiment important dans l'exposition.
Une chose qui en fait nous pose vraiment question à travers plusieurs pièces qu'on peut préparer en ce moment, c'est, on va dire, si on prend la question de la transcendance en fait, c'est qu'est-ce que ce serait en fait la transcendance actuellement, c'est-à-dire quand il n'y a plus vraiment de religion, il n'y a plus vraiment de monde utopique. Je pense qu'il continue à rester une transcendance, mais c'est quelque chose qui serait plat en fait, c'est-à-dire c'est une manière de s'élever mais qui ne va pas forcément vers le haut ou vers un idéal, mais qui est une manière de se dépasser, mais sur un plan horizontal, qui est assez étrange.
Alors justement, pour parler de ce plan horizontal, peut-être de manière plus explicite, on va revenir brièvement à une ancienne pièce que vous aviez présentée en 2008, à l'été 2008, au Palais de Tokyo, Last Manoeuvre in the Dark. C'est une manière synthétique de présenter justement une forme à la fois d'infini par rapport à une litanie des ténèbres, comme vous l'appelez, mais en même temps cette figure clonée du vilain, du mal absolu de Darth Vader que vous aviez repris. Là, on reprend aussi des éléments de religiosité qui sont très clairs, que George Lucas d'ailleurs avait à dessein utilisé.
Oui, ben là, c'était vraiment... en fait, on a choisi vraiment Dark Vador parce que c'est à la fois, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une combinaison de symboles assez basiques, tels que lui le voulait, c'est-à-dire une sorte de condensation de tous les mythes, en fait, qui permettraient de faire l'histoire absolue et de redonner la foi aux adolescents américains, comme c'était le projet de George Lucas. Et donc, ça condense à la fois une sorte de un peu d'élévation, un peu quasi mystique en fait, de croyance comme ça dans un mal, ou dans une force comme il appelle ça, et en même temps c'est vraiment une sorte de produit de consommation tellement utilisé que finalement on se pose même plus la question de savoir ce que représente cet objet. C'est une sorte d'objet, on disait avec Fabien, objet zéro à un moment, c'est-à-dire quelque chose qui est tellement surcodé qu'il devient vide en fait.
Alors, l'objet zéro, on le retrouve peut-être avec ce distributeur en inox de soda, où effectivement tous ces sodas mêlés rappellent ce matiérage, cet écoulement qui peut être celui de l'urine ou d'autres fluides qu'on va retrouver ailleurs. Peut-être pas faire nécessairement toujours de l'homologie de structure chaque fois, comme dirait Bourdieu, entre toutes les choses. Mais c'est vrai qu'une fois mélangés, justement ces objets, vous parliez de fadeur par rapport à ça, qu'est-ce que ça donne ?
Je pense que dans la plupart des objets qu'on fabrique, ou des installations, des événements comme ça, il y a toujours un double mouvement entre, comme on disait avec Dark Vador, l'espèce d'objet ultime de synthétisation du mal et fictionnel, et en même temps l'idée qu'on arriverait à un point zéro en fait, que les choses pourraient s'annuler en fait. Et je pense qu'au Palais de Tokyo, c'était en tout cas notre tentative de quand on multiplie par 300 la figure du mal, est-ce que, comme ça, dans une sérialité, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce que ça s'annule complètement? Est-ce que ça, c'est une force plus une autre force, plus une autre force, plus une autre force? Est-ce que finalement, on n'arrive pas à un point, comme ça, un seuil, en fait? Et je pense qu'il y a toujours ce mouvement entre quelque chose qui est à la fois extrêmement intensif et en même temps la possibilité d'un rien. Donc de quelque chose, le rien, ça pourrait être une tentative nihiliste, ou au contraire l'idée d'un recommencement comme ça, de repartir à zéro, quoi.
Mais justement sur cet aspect presque, je dirais, bon, le terme est à prendre entre guillemets, mais civilisationnel, c'est-à-dire que effectivement, on a l'impression avec Last Manoeuvre in the Dark, qu'avec l'utilisation de la terre cuite émaillée laquée noire, ces références à cette armée, ces 6000 soldats de Xian, qui avait aussi peut-être une tentative justement comme un champ de fouilles, une sorte d'archéologie. Dans cette fontaine, évidemment, on pense à la Bible, on peut penser à d'autres images, on parle beaucoup de ces sources de jouvence ou ce mouvement même de la vie. Les images de fontaines abondent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, par exemple, mais aussi dans d'autres cultures. Mais il y a une simplicité, hein, c'est presque comme dans THX 1138, c'est-à-dire ça serait presque même de l'ordre du confessionnal, enfin j'entends du rapport au sacré, mais très simple, comme quand on entre dans une église puis qu'on va se laver les mains dans un ciboire.
Voilà. En fait, on avait entendu cette histoire, mais qui est assez drôle, de l'archéologue qui, dans 1000 ou 2000 ans, retrouvera en fait un barbecue. Et qui ce qui est vraiment l'image absolue du loisir et de la maison de la résidence secondaire, et puis qui essaye de comprendre en quoi ça pourrait être une sorte d'autel sur lequel on sacrifiait des animaux, quoi. Il y a toujours cette rencontre entre quelque chose d'assez un peu mystique et puis les produits assez usuels, en fait, qui sont de l'ordre du loisir et de la grande consommation.
Alors justement, cette seconde salle, qui n'est pas une vallée de larmes, mais disons qui est une manière aussi de retrouver dans une sorte de Pompéi post-industrielle ce qu'était avant un objet manufacturé, c'est-à-dire la basket chez un grand fabricant Nike, qui procède donc à cette destruction. Qu'est-ce qu'il en était justement sur ce découpage extrêmement précis où on retrouve quelque chose peut-être de l'écho de votre pièce Double Paroi, sur cette manière de transformer un objet, de l'amener dans un autre régime, peut-être de le digérer entre...
Je pense que pour cette pièce, la poussière comme ça de chaussures qu'on a exposée ici, elle fonctionne en rapport aux autres éléments. Hein. Je pense que elle a cette fonction un peu rituelle justement de traverser, et qui prend son sens. Ça on en reparlera peut-être, mais qui prend son sens après avoir vu la vidéo où un individu isolé, seul dans son salon, est pris dans une action de destruction animée par le désir, comme ça. Et ensuite de pouvoir de retraverser cette poussière qui est méticuleusement de manière millimétrique détruite par l'industrie. On aimait bien le rapport entre, disons, l'objet constitué et la poussière, comme si on renvoyait finalement l'objet constitué de la marchandise à une matière première.
Je pense aussi que ça marche vraiment avec la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a la poussière et la vidéo. Et c'est vraiment les deux contraires, c'est-à-dire que dans la vidéo, la chaussure qui est vue sous un angle en fait fétichiste et comme ça investie, en fait, surinvestie, c'est vraiment libidinal en fait, c'est-à-dire qu'il projette une infinité de possibles sur cet objet qui est assez limité. Et donc c'est vraiment le fantasme à son niveau le plus élevé. Et quand on retraverse la salle, on est avec l'objet du fantasme, mais qui serait réduit à un plan et à finalement son degré zéro, en fait.
Alors, vous confrontez justement cet amas, ces poussières de chaussures à trois toiles, une commande impossible à réaliser d'ailleurs, que vous avez faite en termes de copiste. Peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que la fractale, même si c'est un objet, je dirais pas dérivé, mais qui se rencontre beaucoup sous forme de poster ou...
Ce qui nous intéressait, nous, on connaît vraiment la fractale, finalement, c'est à la fois, en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire à la fois une sorte de mythe un peu, même dans les mathématiques finalement, et de quête d'un absolu, Et puis toutes les dérivées qu'on a pu faire, les posters un peu psychédéliques, parce que d'un seul coup, en fait, on retient de la fractale tout ce qu'il faut pas retenir, c'est-à-dire les belles couleurs et les formes un peu psychédéliques. Et donc là, ce mélange, en fait, était parfait pour l'exposition. Et donc on a demandé, en fournissant des images très très haute résolution, puisque la résolution peut être infinie, on a fourni des images très haute résolution de fractales qu'on avait choisies, et on les a fait refaire par des copistes qui ont été limités finalement à la taille de leur pinceau et à la demande qui était un peu de donner, en fait, de mettre de la matière et de faire un peu un effet Van Gogh finalement. Et ce qui donnait, en fait, ils ont dû chercher des effets d'infini en fait avec leur pinceau, quoi. C'est-à-dire donner l'effet que ça, que c'est potentiellement, qu'on peut zoomer à l'infini dedans.
Je ne veux pas filer la métaphore, mais est-ce que l'aspect justement de ces petits morceaux qu'on retrouve d'un millimètre, il n'y a pas un aspect justement pictorialiste, c'est-à-dire c'est comme une palette en fait, dont on pourrait se servir après pour le... Enfin, qui pourrait faire correspondre au rituel, parce que ce jeu sur les matières que vous avez, il est quand même assez important.
C'est vrai que je pense qu'on ne le pensait pas forcément en termes formels comme ça. Je pense que le tas, assez basiquement aussi, la poussière comme ça, elle renvoie à l'idée d'un sablier, quelque chose qui serait écoulé comme ça, puis de manière continue depuis des années, des siècles, je sais pas. Et la fractale comme pureté géométrique, ou quoi, pureté mathématique, puisque c'est ça, hein. D'après Mandelbrot, c'est vraiment juste la représentation comme ça à l'infini d'une zone côtière, quoi, ou et qui est là, prise dans un acte humain, trop humain, d'essayer de le réaliser, et qui est forcément voué à l'échec. Donc après, je ne sais pas si les rapports sont vraiment formels entre les choses, mais c'est plus des dualités de, comme je disais tout à l'heure, de suspension du temps d'aspect très intime et cru là, en l'occurrence de la main qui essaye de réaliser quelque chose d'impossible.
Juste pour finir, mais je pense aussi, enfin, moi, ce que je trouvais intéressant dans Mandelbrot, c'est finalement que c'est un des premiers qui s'est posé la question de, en fait, comment on peut décrire notre monde, puisque notre monde n'est pas fait de cubes et que les nuages ne sont pas des sphères. Enfin, c'était vraiment comment on décrit, en fait, géométriquement des objets, les irrégularités d'objets. Parce que finalement notre monde n'est pas semblable à la géométrie euclidienne, et donc ça couplé au tas qui est vraiment une sorte de chose informe mais qu'on pourrait décrire en fait par des pleins et des vides et par un rapport de plein et de vide, finalement ça communique aussi sur ce plan-là plus géométrique.
Mais donc justement, on débouche, parce que alors, je ne sais pas si cette salle a trouvé un titre, donc au départ c'était annoncé Green Ground et puis après sans titre, alors je ne sais pas si éventuellement vous avez labellisé la chose.
Ouais. Pour l'instant, on a vraiment quelque chose de descriptif qui est juste grind, et c'est un peu en cours de réflexion.
Alors sur cette troisième salle, parce qu'évidemment c'est un mouvement en palindrome, c'est-à-dire qu'on peut le prendre d'un côté et de l'autre, la pénultième ou l'ultime salle peut devenir la première, et vous invitez d'ailleurs à faire ces parcours multiples dans l'exposition. Alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a un rituel qui prend 3 heures, et puis visiblement il y a des extraits de ce descriptif de ce rituel qui est fait par ce jeune homme de 20 ans, qui couvrirait peut-être 5-6 minutes, ou alors peut-être il y a des choses qui sont reprises, donc en voie déformée. Alors là, il y a presque comme des codes de documentaire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il lit ça, un aspect biographique, donc il parle du fait que, je viens d'entendre, donc il était à 12 ans, qu'il était extrêmement solitaire, qu'il avait déjà des pratiques unanistes, d'une certaine manière, mais ça s'inscrit de manière extrêmement, comme un biopic très, très, très simple, en fait, dans sa biographie, de manière extrêmement naturelle. Comment est-ce que vous avez rencontré cette démarche?
Je pense que nous, ce qu'on voulait avec cette voix, c'était, on lui a demandé de rejouer, de relire en fait cette histoire qu'il nous avait racontée en boucle sur toute la vidéo. Donc c'est presque quelque chose qui est de l'ordre de la vexation aussi, hein, de la vexation chez Satie. On a quelque chose qui se répète à l'infini, qui est toujours la même histoire, mais et qui est là en l'occurrence l'histoire d'une espèce de quelque chose qui renvoie à l'idée du traumatisme de l'enfance, ou pas du traumatisme, mais d'une pulsion comme ça inavouable, lui tout seul dans la boue avec ses chaussures, et de le rendre sériel comme ça, demander de le répéter. Je pense qu'il y avait un rapport qui nous intéressait, qui est dans l'exposition en général, Et je pense que, ouais, je pense que ça, c'est important.
C'est vraiment, moi, je pense la phrase clé en fait de son histoire et qui, je pense, fait comprendre l'exposition, enfin, ce qu'on a voulu faire. C'est quand il explique qu'il fait depuis qu'il a 12 ans ses chaussures et qu'il les découpe et tout ça. Et à un moment, il a cette idée en fait qu'il n'est pas seul au monde à faire ça. Et donc, il va chercher sur Internet. Et le problème auquel il est confronté, c'est qu'il ne sait pas comment ça s'appelle ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il l'a fait avant même de... C'est pas... Et donc ça renvoie à la question du rituel qui nous intéresse. C'est pas vraiment le contenu du rituel, c'est-à-dire le sens qu'on pourrait apposer à sa pratique, mais plutôt le mécanisme comme ça d'une croyance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en vient à construire ça sans le penser comme une œuvre d'art, mais vraiment comme une pratique. Après, ce que vous dites par rapport à la voix qui est modifiée, au floutage du visage qui renvoie très directement au documentaire, on voulait un côté très télévisuel en fait, qui est d'une certaine manière encore plus obscène qu'un silence en fait, mais quelque chose qui finalement met mal à l'aise parce que dès qu'on entend cette voix, on sait qu'il y a un problème dans ce qui se passe à l'image, c'est-à-dire que ça nous met dans un rapport de perception aussi au film.
Il y a l'idée étrangement qu'a été créée par la télévision que le réel en fait vient quand le flou est là. C'est un peu un truc bizarre, mais c'est ce qu'a créé la télé depuis quelques années. Et donc à partir du moment où on floute un visage, où on floute un élément, ça voudrait dire que là on est dans le réel. Et ce qui est paradoxal quand on y réfléchit, mais du coup ça devient hyper réaliste du fait que sa voix est masquée, qu'on est dans un flou.
En même temps, c'est pas juste un choix formel au sens où c'est nous qui voulions ça, c'est aussi une demande explicite de sa part d'être masqué, donc ça correspond bien à ce qu'on voulait faire, mais c'est pas juste une formelle.
En cherchant ces pratiques, si j'ai bien compris comme ça, au vol les choses, il avait trouvé une autre forme de... Je dis pas que c'est du baptismal, mais c'est-à-dire c'était cette manière de plonger les baskets dans de l'eau, du wet, donc et une autre forme de pratique fétichiste, si on peut la labelliser ainsi. Mais c'est vrai qu'il y a un cérémoniel qui est extrêmement précis, il fait deux tumulus différents. Bon, je n'ai pas vu l'intégralité de la chose, mais je veux dire, il y a un côté méthodique. Il oint quasiment son corps, m'excuse de filer toujours cette métaphore un peu religieuse, mais disons, avec le tas des baskets qu'il a éventrées, auxquelles il a fait entrer de la chantilly, du sperme, du chocolat. Donc il y a toujours une manière de rester en contact avec tous ces éléments, enfin, qui est assez prodigieuse. Vous, comment vous l'avez justement reçu, ce rituel, en fait
Je pense d'abord, il faut préciser qu'il n'y a pas de sperme. Parce que, non, c'est important, parce que c'est important comme dans le fétichisme ou même dans le bondage, où en fait, ce qui compte, évidemment, c'est tout, c'est jamais d'accomplir l'acte, en fait. C'est que c'est sans cesse repoussé, parce que c'est là la réjouissance vient de là. Et donc, il n'y a pas de... On n'arrive pas à un orgasme.
Dans la vidéo, dans
ouais,
dans la pratique.
Ça peut arriver, mais c'est pas... Et après, je ne sais plus, j'ai oublié.
Non, ce jeu, effectivement, sur les matières, on avait parlé ailleurs, disons, de John McCarthy, mais là, visiblement, l'intention est extrêmement différente. Peut-être c'est même une référence que lui-même n'a pas, mais puisque, voilà, mayonnaise, ketchup, chocolat sont aussi utilisés, disons, comme des fluides organiques, une manière de relire aussi la civilisation américaine. On retrouve aussi le cercle de la merde qu'on avait, d'une certaine manière, dans Double Paroi, c'est-à-dire que c'est vrai que il avalait pendant un an et demi ces morceaux de 1650, et puis en même temps, ça ressortait par le fondement, par les défécations, donc il y avait aussi une espèce d'usinage, le corps arthosien, comme ça.
Je pense que, un peu comme on avait dit la dernière fois, c'est ce qui est important, c'est que par rapport à McCarthy, ou avant lui, les actionnistes viennois, même si McCarthy, c'est déjà une avancée par rapport aux actionnistes, il n'y a là aucun rapport chez cette personne, et c'est ce qui nous plaît, je pense qu'il n'y a aucun rapport avec, déjà, le signe. Qui est chez McCarthy important, c'est-à-dire d'utiliser du ketchup, c'est un signe fort, ou de la mayonnaise, du ketchup pour le sang, de la mayonnaise pour l'urine, ou du chocolat pour de la merde, c'est très, voilà, c'est très signifiant. C'est pas du tout le cas ici, il l'utilise sans vraiment connaître les implications symboliques, et plus comme des éléments d'une palette incompréhensible, en fait, juste par désir sensuel, en fait, de sentir tel produit sur tel truc, telle couleur sur tel autre, et on est vraiment dans quelque chose très formel en fait dans ce sens-là, ou très, en tout cas très, très sensuel. Et je pense que pour revenir sur ce que vous disiez sur l'aspect très méthodique, qu'il fasse des piles, je crois que ça c'est quelque chose qui nous fascine souvent, c'est qu'en fait les choses se déroulent avec une immense, comme dans la double paroi qu'on avait pu faire à la Biennale de Lyon, dans quelque chose qui paraît complètement absurde ou complètement extravagant et extrême, et en fait extrêmement méthodique, extrêmement rationalisé, mais d'une raison qui nous échappe, quoi, qui est une raison juste en dessous, peut-être.
Qui lui échappe en plus, parce que quand on lui demande pourquoi il fait ça et comment il fait les choix, en fait, il réfléchit pas et il s'est finalement résolu à ne pas comprendre ce qu'il faisait, mais juste ça lui plaît. Après, quand même, la constance, je pense, dans les éléments qu'il utilise, c'est quand même le lait, quoi. C'est quelque chose d'assez... Enfin, il...
Oui, oui, oui.
Tu vois, même quand il était avec nous et tout, le matin, il boit du lait et tout, c'est quelque chose d'assez, je sais pas... Dans le lait, il y a quelque chose d'assez inquiétant, d'une certaine façon. C'est à la fois doux, mais inquiétant.